de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie met en œuvre l'agenda 2030 des Nations Unies pour la réalisation des objectifs de développement durable en matière de préservation de l'environnement et de réduction de tous les types de pollution marine. L'Indonésie est réélue membre du Conseil de l'OMI. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Edi Prabowo, explore la coopération avec la France pour lutter contre les déchets en mer. L'Indonésie promeut le port de Tanjung Priok à la session de l'Organisation maritime internationale, ou l'OMI, à Londres. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, visitera l'Afghanistan au début de 2020 pour soutenir la paix. Chers auditeurs, voici les journaux complets. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a organisé l'événement de ASEAN Coastal Cleanup 2019 ou la NASE sur le nettoyage des côtes en 2019, auquel ont participé 26 ambassadeurs de pays amis, comprenant 10 pays membres de la NASE et 16 pays partenaires de la NASE, ainsi que le secrétaire général de la NASE, Dato' Lim Jok Hoi, le samedi 30 novembre 2019 au parc naturel mangrove Muara Karang, Jakarta du Nord. Dans son allocution, la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a déclaré que l'Indonésie a mis en œuvre un programme d'objectifs de développement durable en matière de préservation de l'environnement et de réduction des déchets plastiques qui polluent la mer et son environnement.
The Indonesian Government
Le gouvernement indonésien a mis en œuvre l'agenda de 2030 des Nations Unies pour le développement durable, notamment pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 14, à savoir conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines au service du développement durable, ainsi que son objectif 14.1 qui sera mis en œuvre d'ici 2025. La prévention et la réduction significative de tous les types de pollution marine, en particulier des activités terrestres, y compris la pollution par les débris marins et les éléments nutritifs. En ce qui concerne la réduction de l'impact de la pollution marine résultant d'activités terrestres, l'Indonésie s'est engagée à réduire les déchets solides jusqu'à 70% d'ici 2025. Pour réaliser cet engagement, le président Joko Widodo a publié en 2017 un décret présidentiel concernant la politique et la stratégie sur la gestion des déchets solides. Le ministre Siti a ajouté que le gouvernement indonésien a également publié le décret présidentiel numéro 83 de 2018 sur le plan d'action stratégique de lutte contre le débris marin de 2018 à 2025. L'Indonésie a également lancé un plan d'action national visant à réduire les déchets plastiques par de diverses activités qui doit être mené par toutes les parties prenantes. le processus de dépouillement de vote lors de l'élection des membres du Conseil de l'Organisation Maritime Internationale, ou abrégé en OMI, est terminé. L'Indonésie a été créée le membre du Conseil de l'Organisation Maritime Internationale, ou OMI, de catégorie C pour la période de 2020 à 2021, lors de la session de l'Assemblée de l'OMI le samedi 11 novembre à Londres, en Angleterre. L'élection de l'Indonésie en tant que membre du Conseil de l'OMI contenant 40 pays, avec 3 catégories, sur un total de 174 États membres de l'OMI, montre la reconnaissance mondiale de l'existence de l'Indonésie dans le secteur maritime international. Cela a été transmis par le ministre des Transports, Budi Karyasumadi, dans sa déclaration samedi matin. À cette occasion, il a félicité la délégation indonésienne pour ses efforts et son approche diplomatique, ainsi que le peuple indonésien qui a soutenu afin que l'Indonésie soit élue membre du Conseil de l'OMI pour la catégorie C pour la période 2020 à 2021. Le ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Edi Prabowo, a déclaré que son parti explore la coopérer avec la France dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques en mer, qui est maintenant devenu l'un des problèmes dans les eaux tant nationales qu'internationales. La ministre a dit, dans un communiqué de presse publié samedi à Jakarta, a souligné que l'Indonésie luttait contre les déchets plastiques, qui étaient devenus le deuxième contributeur aux déchets marins dans le monde. Il sait que la source provient non seulement des communautés côtières, mais également des déchets ménagers du grand public qui se jettent dans le fleuve. Par conséquent, il promeut un programme pour surmonter ce problème. L'Indonésie promeut les réalisations et les progrès du secteur maritime aux pays membres de l'Organisation maritime internationale, ou abrégée en OMI. Le directeur général des transports maritimes, R. Agus Hapurnomo, continue de promouvoir la réalisation et le progrès du secteur maritime du pays auprès des pays membres de l'Organisation maritime internationale. L'une des réalisations est le secteur portuaire, qui continue de s'améliorer grâce à l'utilisation des technologies de l'information et à l'augmentation de la capacité de service. Le commerce international est capable d'être assisté par des navires géants. Agus Hapurnomo, dans sa déclaration de samedi, a déclaré que le secteur portuaire continuait de s'améliorer. L'utilisation des technologies de l'information, telles que InaportNet, continuait d'être appliquée dans les ports indonésiens afin de réduire les coûts de logistique, afin d'accroître sa compétitivité par rapport aux autres pays. Les ports de Tanjung Priok, au nord de Jakarta, continuait d'être visité par des navires porte-containeurs géants de classe mondiale. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, se rendra en Afghanistan au début de 2020 pour réaffirmer l'engagement de l'Indonésie à instaurer une paix durable dans ce pays. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'autonomisation des femmes est l'un des éléments qui doivent retenir toute notre attention pour atteindre la paix en Afghanistan. Elle a vu la détermination des femmes afghanes à unir leur voix pour exiger la paix en Afghanistan. La ministre Retno Marsudi a déclaré ceci aux journalistes en marge du dialogue sur le rôle des femmes dans la construction et le maintien de la paix. Les femmes, agents de la paix et de la prospérité, récemment à Jakarta. Cette détermination se traduisait par un consensus national convenu par les femmes afghanes qu'il qualifiait de l'initiative audacieuse pour créer les conditions d'une paix durable en Afghanistan. Elle a souligné que l'Indonésie voulait contribuer davantage à l'effort noble. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voice of Indonesia avec la mise au point de la semaine, dont le titre est « En lâchant le contingent des Jeux asiatiques du Sud-Est, le président ciblait les deux meilleurs champions. » Le président Joko Widodo a officiellement lâché le contingent indonésien qui participera aux 30e Jeux asiatiques du Sud-Est aux Philippines du 30 novembre au 11 décembre 2019. Cette action de la chair s'est déroulée dans la cour du palais présidentiel à Bogor, Jaffa de l'Ouest, mercredi le 27 novembre 2019. Le président Jokowi espère que les athlètes qui représenteront les pays et tous les Indonésiens ont l'esprit élevé. Le président Jokowi espère également que le contingent indonésien pourra copier les réalisations aux Jeux asiatiques de 2018 où l'Indonésie a réussi à gagner la 4e place du classement final. En fait, lors de plusieurs Jeux asiatiques précédents, l'Indonésie ne figurait pas parmi les 10 premières places. Le président a déclaré que l'Indonésie figurait toujours à la 5e place lors des précédents Jeux asiatiques du Sud-Est, mais il a demandé que lors des 30e Jeux asiatiques du Sud-Est tenus aux Philippines cette année, l'Indonésie puisse se classer parmi les 2 premiers. Bien que cet objectif ne soit pas facile à atteindre, le président Jokowi s'est dit optimiste que les athlètes indonésiens feront de leur meilleur pour remporter autant de médailles d'or que possible. Après l'événement, il a déclaré aux médias que le gouvernement préparerait un bonus pour les athlètes ayant remporté des médailles lors de cet événement binal multibranche. Dans son rapport, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, a déclaré que l'Indonésie participerait à 52 des 56 sports disputés. Les 4 branches que l'Indonésie ne suit pas sont de nouveaux sports et l'Indonésie n'a pas encore de fédération. Le contingent indonésien qui partira pour les Philippines se compose de 841 athlètes et de 256 officiels. Ils seront soutenus par des équipes médicales, sportives et divers autres éléments d'appui pour un total de 1303 personnes. Selon le ministre Zainuddin Amali, les 30e Jeux asiatiques du Sud-Est est un événement préparatoire aux réalisations des Jeux asiatiques et des Jeux olympiques qui est la principale cible. Pour cela, la composition du contingent des 30e Jeux asiatiques du Sud-Est comprend 60% d'athlètes juniors et 40% d'athlètes seniors. L'objectif est de permettre aux jeunes athlètes indonésiens de sentir l'atmosphère d'un événement multi-international afin qu'ils puissent exceller à l'avenir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er décembre. On commence par le 1er décembre 1956. Bung Hatta a démissionné de son poste de vice-président. Bung Hatta a officiellement quitté son poste de vice-président de la République d'Indonésie qu'il vivait depuis 11 ans, samedi 1er décembre 1956. Auparavant, en 1955, Bung Hatta avait annoncé que si le Parlement et les électeurs choisis par le peuple avaient été formés, il démissionnerait de son poste de vice-président. Il a annoncé son intention de démissionner par une lettre adressée au président du Parlement, M. Sartono. Une copie de la lettre a été envoyée au président Sukarno. Sukarno tentait de l'en empêcher, mais Bung Hatta restait dans son intention. Les résultats de la session du DPR ont finalement accepté de donner suite à la demande de Hatta. Le 1er décembre 1959, on a signé le système de traité sur l'Antarctique. Le système de traité sur l'Antarctique est un traité international sur l'Antarctique. L'Antarctique est le dernier continent découvert par l'homme. Il y a beaucoup de nations qui veulent le gouverner. C'est pourquoi on a signé le traité sur l'Antarctique en 1959. Dans ce traité, l'Antarctique est considérée comme une région située à 60 degrés de latitude sud. Ce traité a été signé par 46 pays. L'accord stipule que l'Antarctique sera utilisée à des fins pacifiques, de sorte que tout ce qui a trait à l'armée, comme la construction de bases militaires, les pratiques de guerre et les essais de tout type d'armes est interdit dans cet endroit. La recherche scientifique dans cet endroit va continuer. Les scientifiques doivent fournir des informations ouvertement aux autres scientifiques. Ils peuvent également entrer librement dans toute la région antarctique. On a protégé les ressources biologiques de cet endroit ensemble. Le 1er décembre 1988, on a célébré la Journée mondiale du sida pour la première fois. La Journée mondiale du sida a été créée en août 1987 par James Webbon et Thomas Netter, deux responsables de l'information du Programme mondial de lutte contre le sida de l'Organisation mondiale de la santé à Genève en Suisse. Bune et Netter ont transmis leurs idées au Dr Jonathan Mann, directeur du Programme mondial de lutte contre le sida, maintenant connu sous le nom d'ONU-SIDA. Dr. Mann aimait le concept, l'acceptait et approuvait la recommandation d'organiser le premier anniversaire de la Journée mondiale du sida le 1er décembre 1988. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kau bawa diriku ke dalam.
C'était la chanson intitulée 11 January, qui signifie 11 janvier, chantée par Gigi. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici mon Indonésie. Mon Indonésie d'aujourd'hui, intitulée MotoGP Lombok sera le meilleur événement du monde. Le ministre du Tourisme, Wisnu Tama Kusubandio, a promis de rendre l'événement MotoGP 2021 à Mandalika le plus prestigieux d'Indonésie, même le meilleur du monde. Il a déclaré cela en passant en revue l'avancement du développement de la zone économique spéciale, en particulier l'avancement du développement du circuit MotoGP de Mandalika, avec la vice-ministre du Tourisme, Angela Herliani Tanusudibio, accompagnée du gouverneur de Nusa Tenggara de l'Ouest, Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Il a affirmé que pour accueillir la MotoGP 2021 et accélérer les progrès du tourisme dans la zone économique spéciale de Mandalika, le ministère du Tourisme et le gouvernement local amélioreront ensemble les infrastructures. Il a également rappelé que la destination touristique devait avoir un impact direct à la communauté environnante, en particulier dans le secteur de l'économie créative. En outre, le ministre du Tourisme a également rappelé à l'Indonésie Tourism Development Corporation, ou abrégé en ITDC, que le développement de l'industrie du tourisme dans la région de Mandalika devait avoir un impact sur la création d'emplois. Comme la cuisine, la mode, l'artisanat, même la vidéographie, la photographie, la planification de mariage, etc. Il espérait alors que la zone économique spéciale de Mandalika et l'infrastructure de soutien seraient prêtes, il y aurait de nombreux événements à Mandalika, tels que les mariages, miches, réunions, expositions, qui impliqueraient beaucoup des peuples de Nusa Tenggara de l'Ouest, en particulier la communauté environnante. Le ministre a également rappelé que l'objectif du développement doit avoir un impact sur l'emploi. Selon lui, c'était la chose la plus importante qui aurait un impact sur l'amélioration du bien-être de la population. Tandis que le champion du monde MotoGP, Mick Doohan, de 1989 à 1996, s'est dit heureux que la plus prestigieuse course du monde se déroulerait à nouveau en Indonésie, sur le circuit de Mandalika à Lombok en 2021. Mick Doohan a remporté le GP 500cc du circuit Sentul en 1996. Le circuit Sentul a accueilli le MotoGP pendant 2 ans, de 1996 à 1997. Lors de sa visite à Jakarta, Mick Doohan, accompagné du directeur sportif de Dorna Sport, Carlo Espelata, du directeur général de l'ITDC, Abdulbar M. Mansour, et de CEO de l'association du Grand Prix Mandalika, Ricky Bahiramsyah, directeur général de la MGPA, ont assisté à l'événement de pré-lancement. Directeur général de la MGPA, ont assisté à l'événement de pré-lancement de l'association du Grand Prix Mandalika, une filiale de l'ITDC, désigné comme organisateur de tout l'événement de Mandalika. C'est tout mon Indonésie.
Bye.
C'était la deuxième chanson intitulée Terpesona, ou en français Fasciné, chantée par Glenn et Audi. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, si vous aimez les lieux touristiques naturels et vous êtes à Java Central, visitez Kebumen, qui a beaucoup de sites naturels intéressants, surtout la plage. Cette fois-ci, je vais vous présenter l'un des lieux touristiques à Kebumen, Java Central, la colline de Pentulu Indah. La colline de Pentulu Indah, également abrégée en colline de PI, offre une très belle vue à Kebumen. Cette colline est célèbre pour ses magnifiques vues du lever du soleil. Cet emplacement est parfait pour profiter du lever du soleil au milieu de montagnes jumelles de Sumbing Sindoro. Cette colline est située à une altitude d'environ 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bien qu'elle n'est pas très haute, cette montagne offre une vue très enchanteresse. Lorsque le soleil commence à se lever, si le temps est clair, vous pourrez voir la voûte de forêt de la vallée de la rivière Luk Ulo qui est recouverte de brume. La colline de Pentulu Indah est en effet très appropriée pour se détendre. En plus du paysage magnifique qui vous rend à l'aise, vous pouvez également monter une tente et y camper. Pour arriver à ce lieu touristique, si vous êtes de la place Kebumen, allez-vous au marché de Mertokondo. Il y a beaucoup de panneaux indiquant la colline de Pentulu Indah. Si vous êtes arrivé dans la zone de la Pinette, vous verrez une porte où il y a panneau de bienvenue, Wisata Alam Pentulu Indah, ou en français, Tourisme Nature Pentulu Indah, c'est-à-dire vous êtes arrivé à la colline de Pentulu Indah. Ensuite, si vous voulez monter au sommet de la colline, le terrain n'est pas difficile, le chemin est également court. Mais pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais exercé, votre énergie sera épuisée. Chers auditeurs, la colline de Pentulu Indah sont situées dans la région montagneuse de Paras, plus précisément à Dukuh Daka, le sous-district de Karang Sambung, la région de Kebumen, Java Central, à environ 21 km de la ville de Kebumen. Pour profiter de la beauté de la colline de Pentulu Indah, il vous suffit de payer le billet d'entrée aux 5000 rupiah et parking aux 2000 rupiah. Avec ces coûts, vous pouvez explorer la colline de Pentulu Indah à votre guise. Chers auditeurs, au sommet de la colline, vous trouverez un poste, la place préférée des jeunes pour prendre des photos. Donc, si vous allez à la colline de Pentulu Indah, n'oubliez pas d'apporter un appareil photo. Bon voyage!
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
sekali lagi pemeran utama hati pemicu detak jantung ini baru kini ku sadari setelah berlayar pergi itu kamu ya aku wanita yang seharusnya lebih berasa tapi malah aku mencabik lukai kau yang baik dan buat hatimu sakit meski malu untuk akui aku mau kau kembali pemeran utama hati pemicu detak jantung ini baru kini ku sadari setelah berlayar pergi yeah.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Raïssa, dont le titre est « Pemeran Utama », qui signifie « le premier personnage ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes de l'Indonésie. Voice of Indonesia avec l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente des informations sur la Journée internationale des personnes handicapées 2019. Chers auditeurs, tous les 3 décembre, le monde commémore la Journée internationale des personnes handicapées. On célèbre la Journée internationale du handicap depuis 1992 pour sensibiliser et mobiliser le soutien à la question cruciale de l'inclusion du handicap dans la société et le développement. En Indonésie, on a interprété la Journée internationale des personnes handicapées comme une forme de reconnaissance du handicap, d'affirmation de l'engagement de l'ensemble du pays et de la sensibilisation à la réalisation de l'indépendance et du bien-être du handicap. Le thème de la Journée internationale des personnes handicapées de cette année est promouvoir la participation des personnes handicapées et leurs dirigeants agir pour le programme de développement en 2030. Chers auditeurs, pour commémorer la Journée du handicap de 2019 au niveau national, on a pris le thème « Inclusion en Indonésie, excellence du handicap ». Selon Ade Rustama, l'adjoint chargé de l'autonomisation des personnes âgées et du handicap du ministère de l'Information de PMK, le thème de cette année fait référence à un thème international et illustre l'esprit de réalisation des droits des personnes handicapées.
Jadi tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2019.
Donc, le thème de la Journée internationale des personnes handicapées 2019 fait référence à un thème international qui se concentrait sur les conditions permettant de changer pour les objectifs de développement durable, notamment par l'augmentation d'anticipation et de participation, le leadership des personnes handicapées en tant que ressources humaines supérieures pour la réalisation d'une société inclusive. Le thème national indonésien de l'inclusion supérieure handicap illustre l'esprit de réalisation des droits des personnes handicapées à vivre de manière égale et à apporter une contribution significative en tant qu'agent de développement. Chers auditeurs, a déclaré Adelu Satama, pour atteindre des handicaps supérieurs, le gouvernement avait amélioré les programmes de réadaptation professionnelle pour qu'ils disposent des compétences nécessaires pour faire face au marché du travail. À l'avenir, on augmentera la productivité par l'enseignement professionnel fondé sur la coopération industrielle. Pour commémorer la Journée internationale des personnes handicapées 2019, il existe un certain nombre d'événements. Du 25 au 26 novembre 2019, on tiendra une visite de presse. Ensuite, le 28 novembre 2019, il y aura un dîner avec différentes parties prenantes. Le 1er décembre 2019, il y aura une journée sans voiture et l'événement de la paix d'Indonésie. Puis le 2 décembre 2019, on organisera une exposition en fournissant 60 tentes sur la Plaza Barat à Gelora Bung Karno, Senayan. Enfin, le 3 décembre 2019, l'événement phare de la Journée internationale des personnes handicapées se sera tenu au stade Gelora Bung Karno. Voilà l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
C'était la dernière chanson intitulée « Selalu untuk selamanya » chantée par Fatur. En plus de la fréquence de 3325 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec le courrier et musique. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Dans cette édition, je vais vous présenter une chanson de Isyana Saraswati et dans cette édition, je parlerai de sa chanson. Le 29 novembre 2019, Isyana a lancé son troisième album intitulé Lexicon. Dans le même temps, elle a également publié le troisième single de l'album intitulé Sikap Duniawi. L'album intitulé Lexicon raconte deux sens de l'histoire de la vie et de l'amour d'Isyana Saraswati. Par cet album, les auditeurs peuvent savoir facilement les caractères, l'esprit et les troubles d'Isyana. Le processus d'achèvement de l'album Lexicon a été assisté par des musiciens et compositeurs indonésiens, à savoir Gerald Situmorang, Topati, Kenan Lui et le groupe de Tutis composé de Ade Avri, Bonar, Yandi, Kenan et Rivka. Bon, chers amis, maintenant je vais dire bonjour à Paul Jamé, Babé Saint-Group Poupard, 95290 Lille Adam France et Mauro Giroletti de SWL 1510 IK2 GFT via Marzabotto 720090 Bucanisco, Italie. C'est le Gigi Giovanni via Sibari 398149 Messina, Italie. Et meilleures salutations à l'auditeur de l'Algérie, Nahmou Chinoiri, du BP 1547-19000 Algérie, Bouzebouja Mohamed, du BP 9926 El Makari, 31007 Oran Algérie, Abdelilah Boubhir, 05 Rue Larech Bouchantouf, 22000 Sidi Belabès Algérie, et Farid Boumechal, rue de la mosquée numéro 6 par Afourage Batna 05000 Algérie, Lassa Somar du BP 530 Bureau de poste Emir Aïka de 9008 Mascara Algérie et Abdelkader Khalil du BP 669 Ouargla Algérie. Comment allez-vous chers amis? J'espère que vous allez bien et que tout s'est déroulé comme prévu. Merci chers auditeurs d'écouter Voice of Indonesia. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. Chers auditeurs, c'est toute l'édition de Courrier et Musique d'aujourd'hui. Pour la clôture, une chanson que vous allez écouter, intitulée Sikap Duniawi, ou en français l'attitude mondaine, chantée par Isyana Saraswati. Bonne écoute!
Dikala dia tertawa, aku berpikir masa depan. Hidup hanya sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda. Maka jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan. Jadi parutan, hidup hanya sekali.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz ou sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.